Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue et merci d'être toujours fidèle à Métropolez-vous, alors que l'été a déjà pris ses quartiers dans la métropole toulousaine, un peu brutalement d'ailleurs, mais il semble que l'épisode caniculaire soit passé. Certains d'entre vous, et je pense notamment aux plus jeunes, se demandent peut-être à quoi ils vont occuper leurs prochaines vacances. Parmi les activités originales que l'on peut pratiquer durant la période estivale, il y a par exemple l'archéologie et la participation à des chantiers de fouilles. Il se trouve que notre région est plutôt riche dans ce domaine. Qu'en est-il du territoire métropolitain? Son sous-sol présente-t-il un grand intérêt sur le plan archéologique? Y a-t-on fait des découvertes qui sortent de l'ordinaire? Nous essaierons de répondre à toutes ces questions au cours de ce numéro intitulé « Toulouse, métropole des archéologues ». Vous savez peut-être qu'il existe une académie savante toulousaine qui s'appelle la Société archéologique du Midi de la France. Il existe également un service de Toulouse Métropole dédié à l'archéologie. Nous en reparlerons dans cette émission. Et puis, il y a un organisme national, l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Jean-Luc Boudarchouk, directeur adjoint scientifique et technique en charge de l'ex-région Midi-Pyrénées à l'INRAP. Merci beaucoup Jean-Luc Boudarchouk pour votre présence dans ce studio. Comme je pense que ça va intéresser nos auditeurs, je vais vous poser la question. Pour arriver à un poste comme celui que vous occupez à l'INRAP, il faut passer par quel cursus, par quelles études? Alors comme ça, j'aurais tendance à penser évidemment qu'on fait des études d'archéologie, mais sans doute aussi des études d'histoire.
Oui, absolument. Merci de votre accueil. Alors, mon parcours est pas forcément parmi les plus habituels, puisqu'en fait, j'ai commencé par faire sciences politiques à Toulouse, et en même temps, j'ai fait archéologie. Alors, j'ai trouvé les premières opportunités d'embauche en archéologie, alors j'y suis resté, et j'ai commencé technicien de fouilles. Ensuite, je suis devenu responsable d'opération, et ensuite, j'ai opté pour un poste hybride, en quelque sorte, entre l'opérationnel et la gestion administrative comme aujourd'hui. Du point de vue universitaire, ce qui est important, je pense, si on veut se consacrer aux périodes historiques, antiquité, Moyen-Âge, c'est d'avoir autant que possible une double formation en archéologie, mais aussi en histoire.
Quoi d'histoire ? Alors je crois qu'il y a l'antiquité dans vos périodes de référence, le haut Moyen-Âge, et puis alors le royaume d'Ego de Toulouse.
Oui.
Vous pouvez nous dire quelques mots sur ce royaume d'Ego de Toulouse ?
Alors ce royaume d'Ego de Toulouse, c'est un royaume qui a été un petit peu oublié, et en fait qui a marqué véritablement le 5e siècle dans le sud de la Gaule, qui aurait pu avoir, si les destinées historiques avaient été différentes, une destinée du type de celle des Francs pour l'ensemble de la Gaule. Et c'est une civilisation en fait et une culture un petit peu hybride qui se développe au 5e siècle, à l'interface entre le substrat gallo-romain et des apports germaniques. La capitale, bien sûr, est Toulouse, et ça a assuré une destinée exceptionnelle sur tout le 5e siècle à notre ville.
On reparlera certainement de ce royaume d'Ego toulousain au cours de cette émission. Quelques mots sur l'INRAP tout de même. Donc, à quand remonte la création de cet organisme et quelles sont ses missions principales?
Alors l'INRAP est né dans les années 2000 et a pris la succession d'une autre structure qui était de type associatif qui s'appelait l'AFAN. C'était une structure qui était une émanation du ministère de la Culture et qui permettait de financer et de mettre en œuvre les premières opérations d'archéologie préventive. Le temps passant, la structure s'est consolidée et aujourd'hui c'est un établissement public administratif de près de 3000 agents sur le territoire national.
Eh bien, il fallait que tout ça soit précisé. Merci pour cette présentation de l'INRAP et de ses missions. On y reviendra dans quelques minutes. Il est maintenant l'heure de retrouver Corinne Saint-Félix et son flash d'information métropolitaine. Métropolez-vous, l'actu. Et ça tombe bien, la première information de ce flash concerne notre sujet du jour. Les journées nationales de l'archéologie ont eu lieu les 17, 18 et 19 juin à Toulouse. Et je rappelle que depuis 2012, Toulouse Métropole s'est dotée de son propre service d'archéologie.
Effectivement Eric, c'est le service archéologique de Toulouse Métropole, le SATM. Parmi ses missions, la réalisation de l'ensemble des diagnostics prescrits sur le territoire par le préfet de région, le recensement des vestiges archéologiques de la métropole, la recherche et la diffusion scientifique des résultats, l'étude et la conservation des mobiliers archéologiques, mais aussi le conseil auprès des aménageurs et bien sûr la valorisation scientifique et culturelle auprès de tous les publics. Objectif, transmettre ce patrimoine aux générations futures. Sachez que les fouilles préventives réalisées concernent les périodes allant du néolithique jusqu'à l'époque moderne.
Ces deux dernières années, il y a eu de nombreux travaux d'aménagement sur le territoire de la métropole et ils ont permis quelques découvertes archéologiques.
Oui, par exemple le rempart antique Square de Gaulle ou encore le rempart médiéval et moderne Allée Charles de Fitte. Une fois découvert, les équipes sont mobilisées. Se passe alors le diagnostic archéologique préventif. Des sondages sont réalisés pour détecter, délimiter, caractériser et dater les vestiges archéologiques. Puis vient l'heure de la fouille archéologique en elle-même préventive. L'aménageur, maître d'ouvrage, doit suivre une prescription. Il peut modifier son projet pour éviter la destruction des vestiges archéologiques ou faire appel à un opérateur agréé en archéologie préventive pour réaliser la fouille prescrite. Les vestiges sont alors étudiés. Après tout chantier archéologique, un rapport de synthèse rend compte des résultats scientifiques. Les objets archéologiques mis à jour sont étudiés, conservés ou parfois de nouveau enfouis.
Tout ça est très bien, mais ce patrimoine architectural et archéologique, il faut aussi le faire découvrir au public, aux Toulousains en particulier.
Oui, et d'ailleurs pas seulement ce patrimoine. Depuis 2003, la mairie de Toulouse a établi un partenariat avec la région Midi-Pyrénées pour construire une opération d'inventaire de son patrimoine. Elle a mis en place Urban East, un outil géré par les archives municipales dans lequel sont réunies toutes les données recensées. Toulouse Métropole s'est intégrée depuis dans ce projet en 2016. Les 37 communes de la métropole participe maintenant à cet inventaire.
300 000 euros pour la période 2017-2019 vont être déployés pour réaliser cet inventaire du patrimoine métropolitain.
La participation de la mairie de Toulouse est estimée à 30 000 euros par an, idem pour la région. Plus de renseignements bien sûr sur le site internet de Toulouse Métropole.
Un autre domaine maintenant, après l'Euro 2016, la métropole toulousaine est définitivement impliquée dans la vie et l'événementiel sportif. Elle est candidate pour la Supercoupe de l'UEFA 2019.
Toulouse Métropole a déposé officiellement sa candidature pour l'accueil de la Supercoupe de l'UEFA 2019 le 14 août 2019 au Stadium. Il s'agit d'un match officiel opposant chaque été les vainqueurs de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Les équipes finalistes se déplacent ainsi que des milliers de supporters. Le Conseil de la Métropole se prononce ce jeudi 29 juin pour accorder exceptionnellement la gratuité de l'enceinte sportive à l'UEFA si la candidature de la collectivité était retenue.
Est-ce que ça veut dire que la métropole toulousaine serait en passe de devenir un carrefour du monde sportif ?
En tout cas, nous pouvons l'espérer. Après un Euro 2016 réussi, elle a été retenue pour être site hôte de plusieurs compétitions prestigieuses. Match qualificatif de l'équipe de France de football pour la Coupe du Monde 2018 et, s'ils se tiennent en France, la Coupe du Monde de rugby 2023 et les Jeux Olympiques 2024.
Jean-Luc Bodarchouk, beaucoup d'informations qui concernent l'archéologie dans ce flash. Tout d'abord, ces Journées Nationales de l'Archéologie qui sont pilotées par l'INRAP, avec le ministère de la Culture, dont vous dépendez, ainsi que celui de la Recherche.
Oui, tout à fait.
Et alors, qu'est-ce qui était proposé au public là, pendant cette manifestation à Toulouse ?
Alors, il y avait plusieurs manifestations en rapport avec l'archéologie et nous étions partenaires d'une de ces manifestations qui était le Café des Savoirs, manifestation au cours de laquelle, donc à la suite de plusieurs chercheurs de l'unité mixte de recherche Trace de l'université Jean Jaurès, nous avons présenté le prototype de l'Atlas archéologique de Toulouse qui est consultable sur notre site internet et dans lequel nous avons fait figurer un atlas des opérations archéologiques de la FAM puis de l'INRAP dans le Toulousain, indépendamment du statut actuel des communes.
Voilà, l'agglomération toulousaine.
L'agglomération toulousaine, absolument.
Voilà, et ça, c'était donc au Quai des Savoirs, voilà. Les fameux Cafés Savoirs du Quai des Savoirs que je recommande vivement pour tous ceux qui sont curieux. Et puis, il a été question aussi dans ce flash d'information du service archéologie de Toulouse Métropole. Comment ça fonctionne entre l'INRAP et le service archéologie Toulouse Métropole, est-ce qu'il y a des domaines bien délimités ou est-ce que c'est une délimitation tout simplement géographique ?
Alors, c'est une délimitation géographique qui vient du choix du législateur. Plusieurs collectivités territoriales ont fait le choix de se doter de services archéologiques qui, selon les cas, prennent en charge toute ou partie des diagnostics et une certaine partie des fouilles qui ont lieu après. La cellule archéologique de Toulouse, c'est un service important qui a la totalité de la compétence des diagnostics archéologiques et en charge, mais je ne peux pas parler à leur place, et en charge une partie des fouilles afférentes qui arrivent ensuite. Par ailleurs, sur nos collègues, et on est tous issus un petit peu du même vivier, de la même génération, et on se connaît tous, et c'est aussi un service public, et ben, nous faisons la même chose qu'eux à l'extérieur de la communauté toulousaine.
Donc vous travaillez quand même en relation avec eux ?
Oui, oui, bien sûr, on a même une convention avec eux.
Eh bien, sans faire de jeu de mots, nous allons maintenant continuer à creuser le sujet, et j'en profite pour rappeler celui de ce numéro, Toulouse Métropole des archéologues.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de Métropole et vous en compagnie de notre invité Jean-Luc Boudarchouk, directeur adjoint scientifique et technique en charge de l'ex-région Midi-Pyrénées à l'INRAP. Avant de parler en détail de votre action et de vos découvertes passées et présentes sur le territoire de la métropole toulousaine, est-ce qu'on peut dire que ce territoire est vraiment riche sur le plan archéologique ?
Ah, c'est un territoire tout à fait exceptionnel. Toulouse, évidemment, c'est la quatrième ville de France et elle a un passé historique remarquable depuis l'époque gauloise. Voilà, depuis l'époque gauloise, même si ça se passe plutôt dans les secteurs de Pêche-David, Vieille Toulouse, mais avec aussi une autre zone de concentration de vestiges gaulois dans l'actuel quartier Saint-Roch, puis avec la fondation d'une ville à Neuf, à l'époque de l'empereur Auguste, qui va devenir Toulouse, avec une série de monuments qui sont construits tout au long du 1er siècle, l'enceinte évidemment, mais aussi des sanctuaires, comme le fameux Capitole qu'on a retrouvé en fouille dans les années 90, et également d'autres monuments qui ont été mis au jour petit à petit à l'occasion d'aménagements urbains, notamment quand on a fait les grandes lignes de métro et les parkings afférents.
Les zones où le sous-sol est plus riche, c'est quand même beaucoup le centre, je suppose ?
Oui, c'est beaucoup le centre, si vous voulez, pour faire simple. C'est entre la zone du palais judiciaire, le secteur de Saint-Étienne et le secteur de Saint-Cernin. Entre ces trois points, on a vraiment l'accumulation de sédiments archéologiques maximales qui peut atteindre plus de 4 mètres dans l'hypercentre. Ça fait beaucoup de travail pour les archéologues.
Qu'est-ce qu'on y trouve essentiellement dans ce sous-sol de la métropole toulousaine ? Des vestiges de bâtiments, bien sûr, des cimetières, des nécropoles, des ossements humains. Bon, des fossiles, c'est peut-être pas votre domaine. Est-ce que j'oublie des choses ?
Alors, en fait, on va trouver une accumulation de vestiges dans l'ordre de leur dépôt. C'est-à-dire qu'à 4 mètres de profondeur, on va trouver, et c'est particulièrement émouvant, les premières traces de l'installation de la ville antique, avec la mise en place des égouts, des voiries. Enfin, les Romains avaient toujours de très grands programmes d'hygiène urbaine et de qualité de vie, avec des infrastructures colossales pour l'époque. Ensuite, on voit s'accumuler les traces de la vie urbaine à travers l'Antiquité, avec notamment le 5e siècle wisigothique, qui témoigne d'une grande vitalité du tissu urbain, même si c'est une vitalité qui se part aussi de changements importants, avec l'abandon de certains monuments publics, la création d'autres, etc. Une petite interruption quand même au début du Moyen-Âge. Là, il y a un petit trou noir dans l'histoire toulousaine. Et puis à nouveau, de grands programmes urbains et donc des accumulations de vestiges conséquent qui redémarre autour de l'an 1000 et qui ensuite s'arrête pas jusqu'aux rues pavées du 19e siècle qu'on retrouve encore immédiatement sous l'enrobé quand on commence une fouille en centre-ville.
Donc toutes les époques ne sont pas forcément représentées dans ce qu'on retrouve.
Elles le sont de manière inégale. C'est-à-dire que jusqu'à ce que on passe au système de terrassement mécanisé comme on a maintenant, avant on faisait tout à la main et on avait tendance à démonter et à remblayer sur place. D'où des accumulations de couches de terre qui atteignent, comme je l'ai dit, plus de 4 mètres à certains endroits. Mais ça fait vraiment le bonheur des archéologues qui retrouvent dans l'allégresse tous ces déchets des siècles passés.
Les vestiges les plus anciens qui ont été retrouvés dans le sous-sol métropolitain remontent à quelle époque ?
Alors à Toulouse-Centre, on est vraiment autour du changement d'ère, autour de zéro. C'est le moment où on crée à partir de rien la nouvelle ville de Toulouse et où parallèlement on abandonne petit à petit l'ancienne Toulouse qui est à l'heure actuelle Vieille Toulouse.
Sur un plan pratique, même administratif, comment sont décidées, puis organisées et menées les fouilles ? Selon quels critères ? Qu'est-ce qui est l'élément déclencheur ?
Alors, comme ça avait été dit tout à l'heure dans votre reportage, à l'origine de tout ça, il y a évidemment un zonage archéologique. En milieu urbain, il est particulièrement prégnant. Et donc, les services de l'État, quand ils ont connaissance d'un aménagement qui va porter atteinte au sol existant, en quelque sorte, les services du ministère de la Culture, pour être précis, émettent un arrêté préfectoral qui demande à la structure compétente, donc suivant les endroits, ça peut être le Grand Toulouse ou l'INRAP, on a de toute façon exactement la même façon de procéder, et on va, à l'aide de pelles mécaniques, faire des sondages archéologiques, c'est le même principe que le tarirage chez les géologues, et on va voir donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du sous-sol. Quelle est la profondeur des vestiges, quelle est la nature des vestiges, quelle est la complexité des vestiges et quel est finalement l'intérêt des vestiges. On aura un rapport extrêmement normé et l'État décide ou ne décide pas de procéder à des fouilles. Pour ça, c'est l'État qui va émettre un cahier des charges, qui va être transmis au porteur de projet, ce qu'on appelle l'aménageur, et lui va se rapprocher des différents opérateurs en archéologie agréée, qui peuvent être des structures publiques ou des structures privées.
Qu'est-ce qui peut être bloquant à un moment donné lorsqu'on procède à des fouilles ? Ça peut être un veto des pouvoirs publics, ça peut être des dangers, des risques encourus pour le personnel ou pour les bâtiments alentours ?
Alors, toute cette législation, elle a été mise en place justement pour éviter les éléments bloquants, parce qu'il y avait eu une série de scandales archéologiques, ou en tout cas d'impasses dans les années 60 et 70. On ne savait pas comment gérer, du point de vue financier, du point de vue technique, des découvertes archéologiques impromptues. Donc on a fait toute cette chaîne opératoire pour éviter les aléas. L'idée, c'est le plus tôt possible que le porteur de projet ait une idée précise du contenu archéologique, de l'endroit où ces fouilles vont impacter le sol existant, et aussi, de facto, une idée précise de ce que ça va lui coûter, ce qui permet de trouver les financements et le bon moment dans le calendrier. Je pense que maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment intégré à la chaîne opératoire préalablement à l'aboutissement des aménagements urbains, au même titre que d'autres contraintes environnementales.
Alors, à contrario, lorsqu'on lance des travaux d'aménagement du territoire, si il se fait jour qu'il y a des risques pour un patrimoine archéologique ou soupçonné ou découvert au moment de ces travaux, est-ce que vous avez priorité en toutes circonstances pour les arrêter ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question.
Les arrêtés, de toute façon, font obligation aux porteurs de projet de faire appel à un opérateur archéologique agréé, et la contrainte ne sera levée qu'à partir du moment où la fouille sera terminée, c'est-à-dire où, comme dirait José Bové, où les vestiges archéologiques seront démontés. Et donc il n'y aura plus de vestiges archéologiques, et donc l'aménagement peut suivre son cours. Par la suite, mais en décalé, parce que ce sont des rapports qui prennent facilement 1 à 2 ans, les opérateurs archéologiques rendent à l'État et aux porteurs de projets le rapport volumineux de leur découverte, et parallèlement font en sorte de valoriser les découvertes en partenariat avec le ministère de la Culture et le porteur de projet. Et dans le cas effectivement de grandes structures et de grandes agglomérations comme Toulouse, c'est souvent le cas de faire des expositions à Toulouse au musée Saint-Raymond qui sont très appréciées du public.
Alors justement, est-ce que dans les missions de l'INRAP, il y a celle d'effectuer des interventions ponctuelles ou régulières auprès des musées de Toulouse, je pense notamment à Saint-Raymond et au Quai des Savoirs qu'on a cité tout à l'heure, auprès de scolaires ou d'étudiants, d'universitaires, d'organiser des conférences, des stages d'initiation. Est-ce que c'est dans vos missions, ça ?
Oui, absolument, c'est inscrit dans nos missions, et donc ça nous a amené à préparer des expositions, plusieurs avec le musée Saint-Raymond, et aussi de faire ponctuellement des expositions, des rencontres, puisqu'il y a à la fois un aspect valorisation, et il y a aussi un aspect vulgarisation auprès du public. Et c'est vrai qu'on, le on n'étant pas spécifique à l'INRAP, hein, c'est, je pense, toutes les structures d'archéologie préventive, il y a vraiment une demande du public sur qu'est-ce qu'on a trouvé, comment on l'a trouvé, qu'est-ce qu'on a trouvé, et qu'est-ce qu'on peut en penser, et qu'est-ce qui reste encore à trouver.
Voilà, je vais y venir à ça. Il y a ce qu'on a trouvé, il y a ce qu'on pourrait trouver. Est-ce qu'on soupçonne, est-ce qu'on espère de grandes, d'importantes découvertes dans le sous-sol de la métropole dans les années à venir ? Est-ce qu'il y a de forts soupçons à des endroits précis? Peut-être parce qu'on a retrouvé récemment un document d'archives qui laisserait penser que oui, là, il y a quelque chose.
Oui, c'est un domaine qui est quasiment infini, parce qu'on sait, grâce aux recherches en archives et aux recherches historiques, qu'il y a énormément de vestiges pour lesquels on n'a pas encore eu accès archéologiquement, qui sont enfouis sous le sous-sol et qui attendent effectivement un aménagement urbain qui, des fois, peut être limité. Hein. Ça peut être simplement une cage d'escalier qui ouvre une fenêtre sur un point particulier de l'histoire de Toulouse. Il y a quand même un point qui a particulièrement fait briller les yeux des archéologues, c'est quand on a fait les fouilles préventives à l'emplacement de l'école, enfin Toulouse École d'économie à la faculté de Toulouse 1, on a trouvé, outre une nécropole romaine qui va du 1er au 5e siècle, les restes d'un grand monument, qui est un monument qui fait partie du complexe monumental des rois wisigoths.
On y revient.
C'est particulièrement extraordinaire. Et sans doute que la partie centrale du monument est conservée à l'heure actuelle sous une allée arborée à côté de l'église Saint-Pierre des Cuisines. Donc ben, il y est toujours, et peut-être un jour il y aura un aménagement urbain qui permettra de le mettre au jour.
Mais il pourrait avoir quelle taille ce monument? Quelle surface il occuperait?
Ça fait plusieurs dizaines de mètres de côté. On n'a pas tous les paramètres, mais c'est vraiment quelque chose de tout à fait monumental qui, toute proportion gardée, est à l'échelle de Saint-Cernin ou du temple du Capitole, le vrai Capitole, qui est place Esquirol. Donc il reste encore beaucoup à découvrir.
Alors vous parliez de travaux d'aménagement urbain qui permettent à chaque fois de faire des découvertes plus ou moins importantes, de plus ou moins grande valeur. Il y a un projet de troisième ligne de métro à Toulouse, mais avant de lancer ce chantier, il y en a eu deux précédents, la ligne A et la ligne B. Sur quoi on était tombé à l'époque en creusant les tunnels qui allaient accueillir ces deux lignes de métro?
Alors quasiment à chaque entrée de station en centre-ville, on a traversé des séquences archéologiques absolument importantes, et sans doute que la découverte majeure, ça a été, on l'a évoqué tout à l'heure, le Capitole. Le Capitole qu'on cherchait, le fameux Capitole où a été martyrisé Saint-Saturnin, et dont on a retrouvé la partie avant sur la place Esquirol. Alors elle a été détruite, malheureusement, puisque c'est le principe de l'archéologie préventive. Maintenant, il y a un parking à la place. Mais on peut se consoler en se disant que la partie arrière du temple, et notamment les chambres où étaient les statues divines, sont toujours enfouies quelque part sous les façades existantes. C'est le gros problème, en fait, de l'archéologie préventive, c'est-à-dire qu'on est très contraint par une géométrie absolue des projets. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser ne serait-ce que 2 mètres, même si on veut absolument aller voir quelle est la continuité du vestige, c'est extrêmement contraint. C'est un peu frustrant.
Oui, alors j'allais poser la question justement pour un archéologue de métier, un passionné d'histoire qui est forcément un archéologue, est-ce qu'il n'y a pas souvent de la frustration en soupçonnant, je reviens à ce terme de soupçon, en soupçonnant qu'il y ait quelque part des vestiges de très grande valeur, eh bien on ne peut pas lancer les fouilles parce qu'il y a tout un tas de faits ou de points bloquants, administratifs ou tout simplement par les contraintes de bâtiments dans une zone urbanisée. Ça fait vraiment partie de votre métier, ça?
Il y a deux frustrations, en fait. La première, c'est quand même qu'en fouillant, mais c'est un lieu commun de le dire, mais c'est très vrai, on détruit les vestiges au fur et à mesure qu'on les fouille. Quand on a fini notre intervention, le vestige est détruit, même si on a essayé d'en garder par tous les moyens le souvenir, surtout avec les technologies actuelles. Et ce qui est frustrant aussi, effectivement, c'est des fois, de l'autre côté d'une paroi moulée, d'avoir la solution à une hypothèse qui, pour l'instant, nous échappe, parce qu'elle est derrière la paroi moulée. Mais on se console en se disant que peut-être un jour, on fera un autre projet d'aménagement urbain derrière la paroi moulée, et que donc on aura en léger décalé la suite de l'énigme.
Et puis je vais terminer l'émission en vous posant la question, parce que je l'avais un petit peu abordé au tout début. Pour les jeunes qui voudraient s'initier à l'archéologie, est-ce que l'INRAP a quelque chose à leur proposer, des stages d'initiation, des chantiers d'été? C'est pas chez vous, a priori?
Non, l'INRAP, c'est un organisme qui est professionnalisé à 100%, et tout ce qu'on peut offrir, ce sont des stages de découverte en entreprise, en fait. Pour les fouilles de l'été, c'est le ministère de la Culture qui gère ce qu'on appelle les fouilles programmées, mais ces fouilles programmées peuvent être gérées par des archéologues, ils le sont souvent d'ailleurs par des archéologues professionnels, de l'INRAP y compris, mais aussi de d'autres entreprises et institutions.
Eh bien, il me reste à vous remercier pour ces informations, pour cet échange et pour votre venue à Métropole et vous. Nous n'avons certainement pas fait le tour de la question, mais j'espère que nous aurons donné beaucoup d'informations et de précisions aux auditeurs de cette émission sur ce passionnant sujet qu'est l'archéologie, et sur l'archéologie bien sûr dans la métropole toulousaine. Nous avons la chance d'habiter une région riche dans ce domaine. Il faut veiller à préserver et à mettre en valeur ce patrimoine. Peut-être aussi que quelques vocations se seront faites jour à l'écoute de ce numéro, qui sait. J'invite toutes les personnes intéressées à consulter le site internet de l'INRAP, www.inrap.fr, et aussi celui de Toulouse Métropole, www.toulouse-métropole.fr, à la rubrique Mission Archéologie. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine à la même heure, et d'ici là, n'oubliez pas, Métropole et vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.